Les colloques du Collège de France.
On va écouter Andy Cabot, qui est docteur en langue et culture des sociétés anglophones à l'université Paris-Cité depuis 2021. Sa thèse est intitulée « Empire, esclavage et diplomatie, abattre ou consolider l'esclavage après Saint-Domingue dans le monde atlantique 1795-1815 ». Son travail a reçu le prix de thèse de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage en 2022. Et il s'est décliné principalement par la publication d'articles dans des actes de colloque et des revues scientifiques, comme la Révolution française ou Atlantic Studies. Alors ces axes de recherche dans cette thèse s'intéressent autant à l'histoire comparée des abolitionnismes en Europe, notamment la France et la Grande-Bretagne, et aux États-Unis, qu'aux différentes formes de résilience de l'économie de plantation esclavagiste dans les Amériques au cours de la période allant de la Révolution française jusqu'en 1815. Donc dans le futur, cette recherche, vise à s'orienter vers les politiques d'expansion de l'esclavage de l'Empire britannique durant les années 1790 et 1800, puis la difficile mise en place d'une politique impériale abolitionniste par la Grande-Bretagne durant la première moitié du XIXe siècle. Donc nous avons le plaisir d'écouter sa conférence intitulée « Colonisation nouvelle et anti-esclavagisme, la révolution de couleur de Saint-Domingue et l'idéal de l'émancipation » selon Charles Edmond Genet en 1793-1794. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup pour l'introduction. Et donc avant de commencer, je voudrais remercier Gabriel d'avoir organisé ce colloque et de m'avoir proposé d'y participer. Donc, petite note vraiment pas très importante, mais il s'agit bien de Edmond Charles Genet et pas Charles Edmond Genet. Et c'est une erreur qui est dans le programme, qui est due à ma précipitation, qui n'a rien à voir avec toi, Gabriel. Mais bon. Je tenais à la rectifier avant de débuter. Donc, la personne de Edmond Charles Genet est bien connue. Nommé ministre plénipotentiaire de France aux États-Unis en janvier 1793, il est rappelé en août de la même année sur la demande du gouvernement des États-Unis. Chargé d'ouvrir une négociation pour un nouveau traité d'alliance et de commerce avec la jeune République américaine, et ce, afin d'obtenir son soutien diplomatique dans la guerre qui opposait alors la France à peu près l'ensemble des puissances européennes, le jeune ambassadeur se heurta à un gouvernement soucieux de préserver sa neutralité dans ce conflit, acté par la proclamation de neutralité du président George Washington en avril 1793. Malgré cet échec diplomatique dans les relations entre les républiques sœurs, françaises et états-uniennes, il est intéressant de se pencher sur le rôle de Genet durant sa courte mission, surtout en ce qui concerne la colonie de Saint-Domingue, qui, à partir de juin 1793, s'engage dans un processus dit d'émancipation générale des esclaves, sous l'impulsion notamment des commissaires civils français en poste à Saint-Domingue, Sontona et Paul Verel. Face à cet événement qui vient percuter le cours de sa mission diplomatique, le ministre Genet se retrouve confronté aux conflits multiples nés de cette émancipation révolutionnaire. Donc, comme beaucoup d'autres acteurs politiques à cette période, ces événements forcent le ministre à se positionner, à s'exprimer sur le bien fondé de cette émancipation pour mieux la comprendre. C'est ainsi qu'il propose une réflexion anti-esclavagiste sur les causes de cette émancipation, son sens et sur ses avenirs possibles. Alors, durant la présentation, on procédera en trois étapes. Durant les deux premières parties, nous tenterons de mettre en valeur les éléments politiques et rhétoriques importants qui participèrent à l'émergence d'une réflexion anti-esclavagiste chez le ministre. Puis, dans la dernière partie, nous aborderons le contenu et les caractéristiques de cette réflexion à travers des morceaux choisis du texte le plus nettement anti-esclavagiste produit par Genet durant sa mission. Enfin, nous nous interrogerons sur la nature cosmopolite de cette pensée. Donc, pour la présentation, les trois parties seront également organisées chronologiquement et suivront les différentes étapes de la mission diplomatique de Genet aux États-Unis qui dure, au final, un an durant l'année 1793. Donc, durant la première partie, s'intéressera à la question du républicanisme et du cosmopolitisme dans la pensée de Genet durant la première partie de sa mission diplomatique entre janvier et juin 1793. Donc, tout au long de sa mission, l'opinion de Genet par rapport à l'esclavage est liée à son appréciation de la situation politique dans la colonie de Saint-Domingue. Il est ainsi important de revenir sur les conditions de sa nomination au poste de ministre plénipotentiaire aux États-Unis et sur l'importance des affaires coloniales dans celle-ci. L'importance du réseau consulaire français aux États-Unis pour la colonie de Saint-Domingue était déjà bien établie avant l'arrivée de Genet. Les différents consulats et vice-consulats mis en place à la suite du traité d'amitié entre la France et les États-Unis en 1778 s'étaient imposés comme des relais importants dans les affaires commerciales entre les États-Unis et les colonies françaises des Antilles. Durant la mission diplomatique du prédécesseur de Genet, Jean-Baptiste Ternan, qui était ambassadeur aux États-Unis entre 1791 et 1792, il y a eu le déclenchement de l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue en août 1791, qui marque le début en fait, du processus long de la révolution haïtienne. Cette insurrection des esclaves, elle accentue le rôle économique de premier plan du réseau consulaire français dans les affaires coloniales. Pour pallier les besoins urgents en denrées et en armes pour combattre les insurgés à Saint-Domingue, Ternan, le prédécesseur de Genet, s'affirme comme le relais privilégié entre le gouvernement des États-Unis et la colonie et commence à négocier directement avec le gouvernement fédéral états-unien le financement d'expéditions commerciales vers Saint-Domingue. Ces difficultés d'approvisionnement de la colonie ne faiblirent pas dans les années suivantes et constituèrent un des principaux problèmes des agents diplomatiques français en poste aux États-Unis durant cette période. Enfin, en septembre 1792, peu avant l'arrivée de Genet aux États-Unis, il y a aussi l'arrivée d'une commission civile française à Saint-Domingue sous l'autorité de Léger Félicité Sontona et Étienne Paul Vorel, commission qui est chargée notamment de faire appliquer le décret du 4 avril 1792 sur l'égalité politique pour les citoyens dits libres de couleur dans les colonies françaises. Commission qui peut initialement calmer la situation militaire dans l'île, mais qui ne peut résoudre les problèmes d'approvisionnement de la colonie. Donc l'arrivée de Genet aux États-Unis comme successeur de Ternan ne modifie pas cette situation, bien au contraire. Dans les échanges qui entourèrent la nomination de Genet au sein du gouvernement français, la situation de dépendance de Saint-Domingue, mais également des autres colonies françaises envers le commerce états-unien, était déjà largement acceptée. Cette situation s'intégrait dans les objectifs plus larges de la mission de Genet, dont le but principal était de réaffirmer l'alliance conclue en 1778 entre la France et les États-Unis par la négociation d'un nouveau traité, alors que l'essentiel des pays européens était entré en guerre contre la nouvelle République française. Donc l'idée selon laquelle les deux républiques, françaises et états-uniennes, devaient se porter assistance afin de mieux prospérer ensemble, infusait les différentes instructions rédigées pour le nouvel ambassadeur au début 1793. Aux yeux du gouvernement français, les colonies françaises faisaient partie intégrante d'une solidarité républicaine transatlantique. Une partie des instructions du ministre insistait sur la place prépondérante du commerce des États-Unis avec les îles françaises comme une des réalités politiques et économiques qui rendait un nouveau traité nécessaire. Les instructions indiquaient notamment que, je cite, « la condition sine qua non du commerce libre dans les Antilles, c'est intéressant pour les États-Unis », fin de citation. Donc cette condition était le respect de la garantie territoriale contenue dans l'article 11 du traité d'alliance de 1778, garantie territoriale qui signifiait l'engagement des deux pays, les États-Unis et la France, à reconnaître leurs possessions respectives contre toute autre puissance dans l'hémisphère américain. Sur ce point, les instructions soulignaient alors, je cite, « il importe à la prospérité et à la tranquillité de la nation française qu'un peuple dont les ressources augmentent dans une progression incalculable et que la nature a placé si près de nos riches colonies soit intéressé par ses propres engagements à la conservation de ses îles. Le grand commerce qui en sera l'esprit les dédommagera, les États-Unis, les dédommagera d'avance des sacrifices qu'ils pourront faire dans la suite. Fin de citation. Donc cet idéalisme d'un commerce libre entre les États-Unis et les colonies françaises des Antilles, garant d'une prospérité mutuelle et d'une domination conjointe de l'hémisphère américain par la France et les États-Unis, s'était invité ponctuellement dans les relations diplomatiques entre les deux pays depuis 1778. Et au début 1793, face à la guerre en Europe et la situation intérieure fragile à Saint-Domingue, cette idée était remise en avant à travers la mission Genet, conçue en France comme une manière de s'assurer le soutien des États-Unis sur un ensemble d'enjeux essentiels à la France dans les Amériques. Donc une fois arrivé aux États-Unis le 8 avril 1793, à Charleston, en Caroline du Sud, l'activité de Genet fut dirigée en grande partie vers la négociation d'un nouveau traité de commerce avec le gouvernement fédéral des États-Unis. Au cours de cette période de négociation, les échanges avec Saint-Domingue continuèrent, et leur teneur indiquait déjà un aspect important dans la manière dont Genet considérait la situation politique dans la colonie durant sa mission. Pour les commissaires civils Polverel et Sontona, la nomination de Genet faisait, je cite, concevoir de grandes espérances pour le salut de Saint-Domingue. Fin de citation. Espérance qui serait possible grâce à, je cite encore une fois, tout le courage et tout l'enthousiasme naturel à des Français qui combattent pour la liberté du monde. Fin de citation. Pour l'ordonnateur général Charles-Étienne Pierre Vente, qui officiait également à Saint-Domingue, également en poste au Cap Français, le message était encore plus clair. Je cite, la République devra à l'activité de vos négociations le salut de ses possessions en Amérique. Fin de citation. Donc sur l'importance du commerce états-unien pour Saint-Domingue et sur le rôle central du ministre français à Philadelphie pour susciter la compassion des citoyens et du gouvernement des États-Unis envers la nouvelle République française, les différents représentants français dans les Amériques concevaient une continuité dans leurs actions. D'une fonction essentiellement liée à des considérations d'administration interne ou économique, les agents français se transformé progressivement en premier défenseur du nouveau régime républicain français, très récent encore à l'époque, qui a été proclamé en septembre 1792. Et donc, défendre ce régime était cette tâche à laquelle il souhaitait associer les États-Unis à tout prix, pour des motivations autant liées à des considérations concrètes, la nécessité des approvisionnements à Saint-Domingue par exemple, qu'à une forme de républicanisme cosmopolite basée principalement sur la reconnaissance mutuelle de la forme républicaine du gouvernement, aux États-Unis et en France, et sur le commerce libre. Ouais. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons aborder plus concrètement les impacts des événements à Saint-Domingue sur la mission de Genet. Donc, entre janvier et juin 1793, donc dans la première phase de la mission Genet, l'ambassadeur est principalement porté vers la négociation d'un nouveau traité d'alliance avec les États-Unis. Mais cet objectif ambitieux qui avait présidé à l'envoi du ministre se heurte au vu du gouvernement fédéral qui souhaite avant tout préserver sa neutralité dans le conflit franco-britannique. Par la suite, le zèle de Genet à ne pas respecter cette neutralité mena le gouvernement fédéral des États-Unis à demander le rappel du ministre auprès de la France au début du mois d'août 1793. C'est à partir donc de juillet 1793, au moment où la mission officielle de Genet commence à péricliter, c'est au cours de cette période difficile pour les efforts diplomatiques du ministre que les affaires de Saint-Domingue revinrent progressivement au premier plan. Entre le 20 et le 23 juin 1793, la ville du Cap Français à Saint-Domingue subit des journées de combats intenses qui virent s'affronter le nouveau gouverneur François-Thomas Galbaud et ses soutiens, aux commissaires civils Sontona et Polverel. Cette tentative de renversement des commissaires civils fut appuyée notamment par les petits blancs du Cap français, et les marins des navires en rade du port qui étaient restés fidèles à Galbaud. Pour sauver leur position précaire dans la ville, les commissaires Sontona et Polverel décidèrent de publier une proclamation le 21 juin proposant d'affranchir tout esclave qui choisirait de rejoindre les commissaires pour combattre les soutiens de Galbaud. Ce nouvel épisode majeur dans les révolutions de Saint-Domingue eut un écho tout aussi important que l'insurrection des esclaves, d'août 1791, et tout particulièrement pour le réseau consulaire français aux États-Unis. En effet, après les journées de juin 1793 au Cap-Français, un nombre important d'habitants de Saint-Domingue prirent refuge dans les ports des États-Unis. Beaucoup de colons publièrent dans la presse locale afin d'obtenir un soutien financier et matériel de la part des pouvoirs locaux, par des assemblées d'État aux États-Unis, et même de la part du gouvernement fédéral. Enfin, les différents écrits des colons visaient à discréditer l'action des commissaires civils à Saint-Domingue dans l'espoir que ces plaintes puissent faire pencher l'opinion publique locale en leur faveur et de la même manière celle de la métropole. Le tout afin de mettre un terme à la politique d'émancipation des commissaires civils. Face au flot des demandes de réfugiés, c'était le nom qui était pris par les habitants de Saint-Domingue aux États-Unis, donc face à leurs demandes auprès des différents consuls, Genet fut d'abord réticent à condamner les colons. Mais grâce aux échanges avec les autres consuls, ainsi qu'avec les autorités républicaines en poste à Saint-Domingue, notamment Sontonay et Paul Verel, le ministre changea d'avis et commença à dénoncer leurs activités. Dans une lettre au secrétaire d'État Thomas Jefferson, en date du 4 août 1793, Genet insistait sur les préjugés des colons, ainsi que leur, je cite, « opiniâtre résistance aux lois ». Fin de citation. Ces griefs se précisèrent au cours du mois d'août 1793, alors que Genet se trouvait désormais à New York, là où se trouvait une partie de l'escadre française qui avait accompagné le gouverneur Galbaud à Saint-Domingue. L'opposition de Galbaud et de ses soutiens à Sontonay et Paul Verel, ainsi qu'à leur politique d'émancipation des esclaves, finit de convaincre Genet des motivations qui animaient les colons réfugiés. Selon les ministres, les actions de l'ancien gouverneur Galbaud et de ses partisans démontraient, je cite, « la plus affreuse conspiration qui ait été formée contre les succès des armées de la République française ». Fin de citation. Dans cette lettre, Genet disait également, je cite, « que leurs préjugés, ceux des colons, sont plus intraitables que jamais et que leur rage contre les citoyens du 4 avril, les libres de couleur, est identifiée avec leur être ». Fin de citation. Les conséquences des journées de juin 1793 au Cap amenèrent Genet et le réseau consulaire français à voir les réfugiés de Saint-Domingue comme des contre-révolutionnaires et des épidermocrates. C'est une expression qui revient régulièrement aussi. Contre-révolutionnaires et épidermocrates qui souhaitaient mettre un terme au pouvoir des commissaires civils dans la colonie par tous les moyens. Ce rejet en bloc des réfugiés, assimilés à des ennemis de la République, avait une dimension politique, liée au contexte des guerres révolutionnaires. Néanmoins, il était également à l'origine d'un glissement progressif vers l'anti-esclavagisme dans les propos de Genet. Donc dans une lettre à Thomas Jefferson, le ministre dénonçait les, je cite, les projets odieux de quelques émigrés réfugiés de Saint-Domingue. Dans cette lettre, il écrivait également, je cite, qu'il serait à souhaiter que l'on pût expulser entièrement cette race, ainsi que celle des émigrés des aristocrates d'Europe, bien plus dangereux pour la paix, la liberté et l'indépendance des États-Unis que tous les corsaires du monde. Fin de citation. Plus tard, en s'adressant aux affaires étrangères, et c'est la citation que vous avez dans la diapo devant vous, donc en écrivant à Paris, le ministre évoquait, je cite, donc un projet bien caractérisé de rendre les colonies françaises indépendantes des lois de la République, que les chefs de cette conspiration sont ici et qu'un grand nombre d'habitants des États-Unis partagent des mêmes préjugés et attachés par l'intérêt au système de l'esclavage seraient assez disposés à favoriser ses desseins malgré la disposition où paraît être son gouvernement de s'y opposer. Ces planteurs sympathisent avec les nôtres et la couleur est aussi pour eux le terme de la philosophie. Fin de citation. Après son renvoi par le gouvernement fédéral, la mission du ministre Genet se porta donc vers les conséquences des journées de juin 1793 à Saint-Domingue. Plus qu'un nouvel épisode dans les désastres de Saint-Domingue, c'était une expression qui était largement utilisée aussi à l'époque, ces journées de juin de combat avaient marqué l'échec final d'un parti colon, assemblé autour de Galbaud pour mettre un terme à la politique d'égalité des couleurs dans la colonie. De plus, ces journées débouchaient sur une nouvelle étape dans cette politique d'égalité par la mise en place d'un processus d'émancipation générale des esclaves dans les colonies. Entre juin et septembre 1793, le rôle de Genet et des consuls français aux États-Unis fut d'éclairer les dynamiques de cette bataille politique pour l'avenir de Saint-Domingue. Alors que le parti colon continuait son dénigrement des commissaires civils, aux États-Unis d'abord, puis en France. Cette période déboucha sur le deuxième élément contextuel important dans ce glissement vers l'anti-esclavagisme de Genet. Ce deuxième élément, c'était celui qui assimilait les colons et leur acte à un projet contre-révolutionnaire, motivé en grande partie par ce que Genet appelait l'épidermocratie. Le cosmopolitisme républicain liant la France, ses colonies et les États-Unis, ainsi que la critique de l'épidermocratie, étaient donc les deux éléments contextuels importants qui façonnèrent la réflexion anti-esclavagiste de Genet. Et donc, cela me permet d'arriver à la dernière partie. Donc, dans la dernière partie, on est dans la dernière phase de cette mission de Genet aux États-Unis, donc vraiment à la fin, les trois derniers mois, dans lequel l'activité de Genet, il a été renvoyé officiellement, il attend son successeur, et essentiellement de rendre compte, en fait, de cette révolution à Saint-Domingue. Entre septembre et décembre 1793, Genet est à New York et reste officiellement le ministre en poste en l'attente de son successeur. La politique d'émancipation générale des esclaves à Saint-Domingue, initiée lors de la bataille du Cap Français en juin, s'étend à l'ensemble de la province nord de Saint-Domingue le 29 août 1793, puis au reste de la colonie dans les mois qui suivent. Et dès lors, Genet et le reste du réseau consulaire français aux États-Unis décident, en plus du soutien à l'action des commissaires civils à Saint-Domingue, de contribuer à la reconnaissance politique par la France de l'abolition de l'esclavage engagée par la colonie. C'est au cours de cette période que Genet va développer une réflexion anti-esclavagiste. Nous allons présenter les aspects les plus remarquables. L'essentiel de la réflexion anti-esclavagiste du ministre est concentré dans un rapport rédigé pour le ministère des Affaires étrangères le 15 novembre 1793, dans lequel il dresse un bilan de la « révolution des couleurs », c'est une expression qu'utilise Genet régulièrement, et des conséquences principales à en tirer. Dans la première partie de ce rapport, le ministre propose une lecture politique des événements ayant touché Saint-Domingue depuis la bataille du Cap-Français. Il associe une nouvelle fois le parti de Galbaud durant cet événement à, je cite, « l'épidermocratie et la contre-révolution », fin de citation, ce qui a logiquement mené à la décision d'armer et libérer des esclaves. Dès ce moment, selon Genet, je le cite dans ce rapport, « reconnaître encore l'esclavage n'eût été que continuer une barrière chimérique qui, n'inquiétant que les esprits dénués de force pour les effrayer, ne représentait plus qu'une contradiction ridicule entre un droit physiquement et moralement insoutenable et un fait que rien ne pouvait détruire. » Fin de citation. Si la première partie du rapport propose un long développement sur la bataille du Cap Français et les références à l'épidermocratie, la suite consacre des passages conséquents sur la vision de la société post-esclavagiste défendue par le ministre. Premièrement, le rapport place son auteur face à une opinion publique large qui compte dans ses rangs encore des défenseurs de l'esclavage, dont les convictions semblent réfutées par la révolution des couleurs de Saint-Domingue. Saint-Domingue, territoire où, je cite Genet, où un nouvel ordre des choses va naître et qu'il est possible que les calomniateurs de l'espèce humaine y trouvent le démenti de leurs assertions. Fin de citation. Quel était ce nouvel ordre des choses ? Dans ce rapport, Genet ne se borne pas à une simple constatation de la politique d'émancipation. La fin de l'esclavage à Saint-Domingue est porteuse d'espoir et de possibilités, car elle permet, comme vous pouvez le voir dans ce passage, la culture de nouvelles denrées, et la mention de l'indigo, du cacao et du coton, à la fin de la citation. Culture de nouvelles denrées propice à l'établissement du travail salarié et son corollaire, le commerce libre, pour une meilleure distribution des fruits du travail. Dans ce passage, on peut déjà noter que l'expression « nouveau peuple », qui intervient au début de la citation, emprunte directement au terme utilisé par les autorités de Saint-Domingue dans leur correspondance avec Genet, qui elle aussi insistait sur l'importance du commerce états-unien pour que la colonie soit, je cite, « sauvée, régénérée et conservée ». Fin de citation. Pour le reste, le portrait d'une nouvelle société où le nouveau peuple formé d'anciens esclaves pourrait jouir d'un salaire tiré des revenus des plantations mais également d'une réorganisation de la propriété terrienne vers des cultures moins exigeantes en terre et tout aussi profitables pour le commerce, est autant prometteur que limité. L'idée que les îles à sucre puissent sortir du système de l'économie de plantation par le progrès de denrées moins demandeuses en bras que la canne à sucre était un axiome central des idées gradualistes promues aussi bien par la Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade à Londres, la principale société abolitionniste fondée en 1787, mais également par la première société des Amis des Noirs à Paris à la fin des années 1780. Cette idée était plus largement liée à ceux qui soutenaient la conception d'une colonisation nouvelle à la fin du XVIIIe siècle. Donc ce qui est intéressant, par contre, dans ce passage de Genet, et en écho à la présentation qui a été faite hier de Nils Renard, c'est que cette colonisation nouvelle, dans l'esprit de Genet, elle vient se concentrer sur Saint-Domingue et sur les Caraïbes, alors que la plupart des partisans de la colonisation nouvelle, les abolitionnistes, des gens comme Thomas Clarkson, par exemple, en Essay on the Impolicy of the Slave Trade, ou Oludai Quiano aussi, dans sa biographie en 1789, s'intéresse surtout à l'établissement de nouvelles colonies en Afrique, qui serait un peu la première étape vers l'abolition du commerce d'esclaves. Il ne parle pas de colonisation nouvelle dans les Caraïbes. Donc cette colonisation nouvelle, rarement évoquée dans les correspondances diplomatiques officielles, parle donc d'une possibilité, dans ce rapport de Genet, d'une transition immédiate réussie vers le travail libre, qui est probablement le fruit de la fidélité de Genet au processus d'émancipation générale, entamé par les commissaires civils, mais aussi l'expression d'un intérêt certain du ministre envers les idées proposées par l'anti-esclavagisme gradualiste, pour mettre fin progressivement à l'esclavage dans les Amériques, grâce à l'abolition du commerce d'esclaves. D'autres passages du rapport abordent également les aspects prometteurs de cette nouvelle société. Dans un passage en particulier, Genet associe le succès de l'émancipation générale à l'établissement de relations économiques et politiques nouvelles entre l'Europe, les Amériques et l'Afrique, ce qui l'inscrit là aussi dans les réflexions des abolitionnistes anglais et français de la période. Au premier plan de ces relations renouvelées se trouve le commerce des esclaves, auquel Genet voit un passage là aussi surprenant et saisissant, que vous pouvez voir dans la diapositive. Dans ce passage, la réflexion de Genet l'ancre dans un imaginaire anti-esclavagiste, associé, là encore, à la colonisation nouvelle et au gradualisme, et ce, dans le contexte de l'émancipation générale récemment décidée à Saint-Domingue. Cet extrait envisage d'abord un remplacement de la main-d'œuvre servile, issue d'Afrique, par un accroissement naturel parmi la population de couleur dans les Antilles, dont la fertilité originelle serait de nouveau rendue possible par la fin de l'esclavage. Donc là, il faut comprendre que les sociétés esclavagistes sont fondées sur une démographie structurellement déclinante au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a plus de morts que de naissances parmi la population esclave durant tout le XVIIIe siècle, ce qui explique pourquoi le commerce d'esclaves continue durant tout le XVIIIe siècle, pour permettre le remplacement de la main-d'œuvre. Et donc, c'est pour ça que l'abolition du commerce d'esclaves, pour les abolitionnistes, c'est le premier pas vers l'adoucissement des sociétés esclavagistes, pour permettre la reproduction naturelle. Donc, Genet également, dans ce passage, s'engage dans une spéculation sur les rapports que pourraient entretenir les, je cite, les Noirs partis de cette île, désormais des citoyens français, avec leurs frères d'Afrique, qu'ils pourraient, je cite, arracher au rivage africain et à la barbarie des traiteurs européens pour en faire des hommes et des Français. Fin de citation. Songeuse et surprenante, cette partie de la réflexion anti-esclavagiste de Genet évoque par certains aspects les projets de colonisation nouvelle portés par les Noirs libres des États-Unis et des Caraïbes au cours du XIXe siècle, qui voient notamment des choses positives à travers des projets d'émigration à Haïti au XIXe siècle, mais aussi au Liberia, qui est le principal projet de colonisation de Noirs libres au XIXe siècle avec la Sierra Leone. Dans ce passage, comme d'autres de son rapport, le ministre se rattache donc à une pensée anti-esclavagiste largement influencée par les idées de la colonisation nouvelle, ce qui le place clairement dans le giron du mouvement anti-esclavagiste de la seconde moitié du XVIIIe siècle, sans toutefois le prémunir des limites de cette pensée dont il exprime simplement une ébauche. La vision d'une société post-esclavagiste proposée par la ministre comporte des limites évidentes, qui sont aussi celles des abolitionnistes de la période. Pour Genet, ces limites s'expliquent encore une fois par la démarche de justification des actions des commissaires civils qu'il entreprend dans son rapport. Le ministre, comme les différents représentants de la République à Saint-Domingue, tente tant bien que mal de rassurer la métropole en tempérant les effets économiques à court terme de l'émancipation générale. Donc, dans un autre passage du rapport, je cite, Genet écrit « Citoyens, ministres, soutenons le peuple nouveau. Éloignons-en les intrigants qui ne vivent que de la simplicité des peuples. Notre commerce national, alimenté par 400 000 bras affranchis, ne sera point au-dessus de ce qu'il était quand il tenait sa splendeur d'autant d'esclaves. » Dans ce passage, Genet répond au portrait catastrophiste des capacités productives de la colonie, largement répandu dans les écrits des colons réfugiés, afin de montrer que l'émancipation générale ne met nullement en danger le potentiel économique de la colonie. Enfin, dernière chose à noter dans ce rapport, qui peut montrer que cette vision de Genet est assez intéressée contextuellement, Genet parle également du fait que libérer les esclaves permettra de recruter des soldats parmi ces esclaves libérés pour pouvoir soutenir l'effort de guerre français dans les Caraïbes face à la Grande-Bretagne notamment. Donc pour conclure, alors, au terme de sa mission diplomatique, le ministre plénipotentiaire Genet développa les éléments d'une pensée anti-esclavagiste sur la société de Saint-Domingue, qui s'engageait alors dans un processus de sortie de l'esclavage. Dans quelle mesure cette ébauche de pensée anti-esclavagiste peut être considérée comme cosmopolite? Comme différentes présentations ont suggéré durant ce colloque, il est important de considérer la pensée de Genet comme située. La fonction officielle du ministre, ainsi que les contextes conflictuels dans lesquels son action s'inscrit, celui des guerres révolutionnaires, puis de la révolution des couleurs de Saint-Domingue, ces contextes définissent les contours du cosmopolitisme de Genet, marqué par un idéalisme fondé sur la fraternité républicaine dans le monde, qui unit d'abord la France et les États-Unis, puis ensuite le peuple nouveau de Saint-Domingue, célébré et défendu par Genet tout au long de sa mission. Face à cette solidarité entre des peuples nouveaux, Genet voit l'opposition des épidermocrates ou encore des calomniateurs de l'espèce humaine, acteurs d'une conspiration qui souhaite la restauration de leurs préjugés à Saint-Domingue et que Genet assimile volontiers au projet des émigrés et aristocrates d'Europe. Ce sont ces contextes qui débouchent sur la partie la plus pertinente de la pensée de Genet quant à l'anti-esclavagisme. Il y développe notamment l'idée que, dans la continuité des conceptions héritées de la colonisation nouvelle, liée à l'abolitionnisme européen, le nouveau peuple de Saint-Domingue saura faire mentir les calomniateurs de l'espèce humaine, qui considèrent la révolution de couleur comme vouée à l'échec. Ici, ce n'est pas l'échec d'un gouvernement dont les défenseurs de l'esclavage parlent, ou d'une constitution, mais il s'agit d'un échec économique. Pour les défenseurs de l'esclavage, il était impossible de faire coexister liberté et plantation sur un territoire marqué par l'esclavage et l'économie de plantation. Ainsi, comme beaucoup d'abolitionnistes en Europe et dans les Amériques, Genet construit sa réflexion anti-esclavagiste en partie aux réponses aux injonctions traditionnelles des défenseurs de l'esclavage, et notamment celles des propriétaires d'esclaves dans les colonies. Il développe un cosmopolitisme particulier et situé au sein duquel un peuple nouveau issu de l'esclavage ne pourra être régénéré que par le commerce et son corollaire, la culture des denrées dites tropicales qui ont bâti la société coloniale et son organisation. Dans l'esprit même des soutiens de la révolution de couleur, comme Genet, le peuple nouveau et l'humanité ne peuvent s'accomplir qu'au sein des cadres imaginés en Europe et particulièrement en France. Ceux d'un républicanisme universel à construire par les armes notamment, surtout en ce qui concerne la France, et porté par l'abolition des privilèges, notamment celui de la peau dans les Amériques, et l'établissement de la souveraineté populaire qui engloberait les mondes coloniaux et esclavagistes des Amériques et leur permettrait de progresser politiquement vers la sortie de l'esclavage. Comme d'autres pensées esclavagistes, j'en terminerai ici, les propos de Genet sont à apprécier dans leur contexte immédiat, car ils ne proposent pas de penser la société post-esclavagiste dans ses particularités, ses difficultés, préférant la rattacher à un discours cosmopolite global qui seul pourra définir les cadres de la sortie de l'esclavage. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.